vous rappelle que si j'ai fait le choix de Saint-Anselme, de Saint-Bernard et de Saint-Bonaventure, c'est que tous les trois s'inscrivent dans la tradition augustinienne, c'est-à-dire dans une tradition éminemment biblique, et qui a le sens de l'honneur, de la gloire de Dieu. Et c'est dans cette tradition augustinienne, d'ailleurs, qu'à leur tour, les réformateurs se sont inscrits. Bien entendu, je vous rappelle que il ne s'agit pas de prendre comme argent comptant tout ce qu'ont pu écrire et dire ces trois saints. Mais je crois que nous avons tout intérêt à les connaître et à lire leurs principaux ouvrages. Je pense d'ailleurs que, avec les indications que je vous ai données, vous avez quelques éléments bibliographiques qui pourront vous être utiles. De son vrai nom, Bonaventure s'appelait Jean Fidanza. Et Bonaventure, c'est un surnom. On pourrait dire, c'est Jean Fidanza, dit Bonaventure. Il y a des grandes controverses entre savants sur les dates de sa naissance. C'est pour ça que ici, j'ai inscrit 1217-1221 parmi les meilleurs étudiants de Bonaventure. Les uns placent sa naissance en 1217, les autres en 1221, quand c'est pas, même dans certains cas, 1222. Donc, on n'est pas au clair sur la date de sa naissance. Par contre, on est très au clair sur la date de sa mort. Et je dirais, c'est parce que il est le contemporain de Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin est né en 1225 et il est mort la même année que Bonaventure en 1274. On peut donc dire que vraiment, ces deux grands théologiens médiévaux sont contemporains. L'un, vous le savez, Thomas d'Aquin a été un dominicain. Généralement, on dit, on met OP après le nom de dominicain, ça veut dire de l'ordre des frères prêcheurs. Et pour Bonaventure, on met OFM, ce qui veut dire ordre des frères mineurs, les frères mineurs étant l'ordre issu de la vie et de l'œuvre de François d'Assise. Donc ce sont aussi ce qu'on appelle les franciscains. Donc, Thomas d'Aquin, dominicain, Bonaventure, franciscain, et comme je vous le dirai tout à l'heure, si ces deux hommes se sont mutuellement appréciés, s'ils ont même appris l'un de l'autre, sur des points assez importants, ils ont été en opposition. Mais enfin, j'y reviendrai plus tard. Originaire de Bagnorea, que certains appellent Bagnoregio, hein, on écrit Bagnoregio, Bagnorea, Bagnoreo, c'est un petit village situé près de Viterbe, en Italie, dans les états pontificaux. Viterbe, c'est écrit comme ça, se prononce V-I-T-E-R-B. Mais assez jeune, à moins de 20 ans, Bonaventure s'est rendu à Paris et il a étudié à Paris, à la faculté de Paris, qu'on appelle la Sorbonne, et il a reçu ses grades à Paris, et très tôt, en 1253, il est devenu frère mineur, c'est-à-dire il est rentré dans l'ordre des franciscains. Et il va élaborer son œuvre comme professeur dans la chaire qu'on avait réservée aux franciscains à l'Université de Paris, chaire qui avait été occupé d'abord par le célèbre Alexandre de Halès, je vous ai dit son nom, et ensuite, pendant quelques années, par Jean de La Rochelle, mais Jean de La Rochelle ne fut professeur dans cette chaire franciscaine de l'Université de Paris que pendant très peu d'années, et finalement, à Alexandre de Halès, qui a été son maître, à Jean de La Rochelle, qui a été aussi son maître à l'Université de Paris, va succéder Bonaventure. Et Bonaventure va avoir, en gros, de 1250 jusqu'à 1257, c'est-à-dire pendant 7 années, des années de labeur considérable. Il enseigne, mais tout en enseignant, il va publier. D'ailleurs, je n'ai pas le temps d'aborder la question des publications à cette époque. Nous sommes à l'ère non seulement de l'imprimerie, mais de la reproduction par toutes sortes de moyens. À cette époque, les étudiants prenaient des notes, les professeurs ensuite révisaient les notes sténographiques des étudiants, et puis on publiait ses écrits, c'est-à-dire par manuscrit qui était très vite recopié, si bien qu'on a pu découvrir des œuvres de Bonaventure, de chaque œuvre de Bonaventure, plusieurs manuscrits. C'est vous dire quand même que on multipliait les copies, si vous voulez, c'est comme si un petit peu quelqu'un prenant des notes à mon cours, comme ça vous arrive, venez ensuite me proposer de revoir ça pour refaire un polycope, et puis je corrigerai au besoin ce que j'aurais pu dire d'erroné ou ce que l'étudiant aurait pu mal comprendre. Et puis voilà, quelqu'un d'entre vous pourrait s'arranger pour en faire d'autres exemplaires. D'ailleurs, c'est très dangereux ce système parce qu'à la limite, il suffirait qu'un étudiant, à condition qu'il soit particulièrement compétent, rapide en sténo, prenne les cours et puis diffuserait le cours sans que les étudiants aient à prendre la peine d'y assister. Il y aurait une sorte de diffusion comme ça. Eh bien, là, les étudiants en théologie écoutaient Alexandre de Halès, puis Jean de La Rochelle, puis finalement Bonaventure, et puis tout ce qu'enseignait le maître, car à ce moment-là, on avait le titre de maître, d'ailleurs, si vous voulez, la maîtrise, c'est recevoir un titre de maître, eh bien, le maître pouvait ainsi avoir collecté très rapidement des œuvres. Nous avons, je le répète, beaucoup de manuscrits de Bonaventure. De façon assez étrange, Bonaventure a été republié, ou tout au moins certaines de ses œuvres, en latin, puisque les cours avaient lieu en latin, c'est-à-dire formidable, ces cours qui étaient donnés en latin, puisque tous les étudiants du monde occidental, de l'Europe, tous les étudiants connaissaient le latin, c'était la langue qui permettait aussi à un professeur de passer de Paris à Oxford, d'Oxford à Naples, etc. Le latin était la langue universitaire. Et au fond, tous les livres de l'époque, tous les travaux de l'époque étaient publiés en latin. Et, c'est très curieux, il a fallu beaucoup de temps pour que ce soit traduit en français. On peut dire même que Bonaventure n'apparaît vraiment en français qu'au XXe siècle. Par exemple, le traité dont je vais vous parler aujourd'hui a été traduit en français pour la première fois en 1967, c'est-à-dire presque 750 ans après que Bonaventure l'ait écrit. Enfin, nous verrons ça tout à l'heure, j'y reviendrai. En 1257, Bonaventure va quitter l'enseignement. Il va continuer à résider à Paris, ou plus exactement à Mantes, près de Paris, mais il est nommé supérieur général de l'ordre des franciscains. Vous savez, c'est une époque étonnante que cette époque médiévale, et en tout cas dans ce XIIIe siècle, puisque à 30 ans, à peine ont commencé à enseigner, et les œuvres de Bonaventure, les grandes œuvres de Bonaventure, ont été publiées dans sa trentaine. Alors qu'il était donc tout jeune. Mais le Moyen-Âge était une époque de foisonnement d'idées, de foisonnement d'enseignements. On circulait, les étudiants circulaient, je l'ai dit tout à l'heure, d'un pays à l'autre, d'une université à l'autre. Et finalement, il y avait, on peut dire que le mot jeunesse dominait la situation. Les maîtres étaient jeunes. Et d'ailleurs, il avait, je crois, si je calcule bien, il devait avoir 35-36 ans, lorsqu'il a été nommé général supérieur ou supérieur général des franciscains. À partir de là, ça va changer pour Bonaventure. Il a donné pas mal de sermons, il a pu publier un certain nombre d'œuvres encore, même quasiment jusqu'à sa mort. Je vous parlerai la semaine prochaine d'une œuvre qu'il a rédigé en 1273, c'est-à-dire à peu près un an avant sa mort, et qui est une de ses œuvres maîtresses, c'est un commentaire sur la semaine de la création. Alors je vous en dirai un mot la semaine prochaine, mais il va voyager. En effet, général et franciscain, il faut qu'il aille visiter en Italie, en Allemagne, en Flandre, un peu partout en Europe occidentale, il faut qu'il visite les monastères franciscains, qu'il voit un peu si les franciscains sont fidèles à la règle, et tout ça. En 1274, il y a au printemps un concile écuménique à Lyon. Ce concile écuménique est important en ce sens que ce concile de 1274 vise au rassemblement, à la réunification entre les églises d'Orient et les églises d'Occident, et comme général des franciscains, Bonaventure fait partie activement de ce concile, et sans doute la fatigue de ce concile a dû l'user prématurément. Quoi qu'il en soit, au moment de la quatrième session du concile écuménique de Lyon, brusquement, il meurt dans ses vies. Il est mort donc à Lyon en 1274. Je vous cite maintenant quelques-unes des œuvres les plus importantes de Bonaventure. Tout d'abord, il y a son commentaire sur le livre des sentences de Pierre Lombard. Pierre Lombard, a vécu de 1100 à 1160, et il avait publié ce qu'on appelle le livre des sentences. Je ne vous fais pas l'historique des livres de sentences. Il y en avait déjà eu un peu avant Pierre Lombard, mais c'est le livre des sentences de Pierre Lombard qui, pendant très longtemps, on peut dire pendant des siècles, va faire autorité. Qu'est-ce que c'est que ce livre des sentences ? Liber Sanctatione. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce livre des sentences, c'est un recueil classé par thème de déclaration des pères. Et si vous voulez, pour les étudiants en théologie, c'est très important parce que par thème, sur Dieu, sur la création, sur Jésus-Christ, et puis à l'intérieur de chacun des grands chapitres, il y a des chapitres détaillés sur la Trinité, sur la personne et les deux natures de Jésus-Christ, etc. Bon, alors donc les étudiants ont un manuel, qui contient par thème les déclarations importantes, les plus importantes, les déclarations choisies des pères. Écoutez, pour vous donner un exemple de livre analogue au livre des sentences de Pierre Lombard, il avait peut-être eu en main l'édition allemande, ce qu'on appelle la Reformierte Dogmatique de Heinrich Heppe. C'est un livre qui a été publié à la fin du XIXe siècle par ce Heinrich Heppe, Et qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il a recueilli par thème les textes de tous les réformés, les docteurs réformés, les théologiens réformés des 16e et 17e siècles. Alors ça a été traduit en anglais sous le nom de Reform Dogmatics, et vous l'avez d'ailleurs, je l'ai vu à la librairie, c'est très utile, parce que, je le répète, classé par thème, vous avez les affirmations centrales des principaux docteurs de réformer les 16e et 17e siècle. On peut dire que le livre des 100 ans de Pierre Lombard était pour les pères de l'Église ce qu'est le réformer dogmatique de Épée, c'est-à-dire c'est un recueil de sentences, un recueil de phrases, un recueil de paroles qui permet à l'étudiant d'avoir une sorte de petite bibliothèque manuelle. Petite bibliothèque manuelle. Alors vous avez là tout ce que les grands docteurs réformés ont pu écrire et qu'on trouve difficilement. Par exemple, vous avez eu deux grands docteurs italiens, deux grands acteurs réformés italiens, qui ont dû quitter évidemment l'Italie parce que pourchassés par l'Inquisition et qui finalement ont donné leur enseignement en Suisse, en Alsace, en Angleterre. C'est du pape Zanchi, Jérôme Zanchi, Z-A-N-C-H-Y, et Pierre Martyr Vermigli, donc deux grands théologiens réformés du XVIe siècle, des disciples de Calvin, et leurs œuvres, si vous voulez, on ne les trouve plus maintenant, on les trouve très difficilement. Mais vous avez des extraits, des affirmations de Zanchi ou de Pierre Martyr Vermigli dans ce livre, ce compendium de théologie réformée de Hegel, qui a été traduit en anglais et republié à plusieurs reprises depuis. Donc vous pouvez, si vous lisez l'allemand, je vous conseille d'acheter plutôt le réformateur dogmatique de Hegel. Si vous ne lisez pas l'allemand, vous l'avez en anglais sous le titre de réforme dogmatique. Et c'est dommage, je dirais, que nous ne l'ayons pas en français. Mais enfin, je vous recommande d'avoir dans votre bibliothèque ce livre des sentences, ce livre réformé des sentences. Mais après que Pierre Lombard ait rédigé son livre des sentences, on a eu, ce qui était déjà plus délicat, des séries de commentaires sur le livre des sentences de Pierre Lombard. Commenter sur le livre des sentences. Alors, si vous voulez, on passe déjà à un troisième état. Si vous voulez, vous avez eu les pères, ensuite, vous arrivez aux sentences, ensuite, vous arrivez aux commentaires sur les sentences, et finalement, c'est ce qui donnera naissance à ce qu'on a appelé les sommes. Les grandes sommes théologiques, et on vous dit que Bonaventure a écrit une petite somme dont je vais vous parler dans un moment, mais surtout est très célèbre la Summa Theologica de Thomas d'Aquin. Il faut lire certains passages de cette somme. Alors, la Revue des Jeunes a publié, et ça a été republié, je crois, depuis, en petit volume, il faut lire la pars prima de la somme théologique de Thomas d'Aquin qui concerne Dieu. Le DDO, c'est la pars prima de la somme théologique de Thomas d'Aquin, c'est un livre à lire. En tout cas, moi j'ai eu le grand bénéfice, lorsque j'ai des études à Paris, d'avoir un commentaire de, nous avions le texte latin et le texte français dans cette édition-là. Et mon professeur, le CERF, nous commentait ce début de la pars prima concernant Dieu de la somme théologique de Thomas d'Aquin. Donc, vous voyez, vous avez une chaîne là, les pères, les sentences des pères, les commentaires sur les sentences des pères, et finalement, ça a donné naissance au sommes. Donc, vous avez deux Bonaventure comme grand ouvrage, le commentaire sur les sentences Dieu, comment dire, livre des sentences de Pierrot. Ensuite, vous avez, dont je vais vous parler aujourd'hui, le Brevidotion, qui a été probablement écrit vers 1257 par Bonaventure. Et puis alors, vous avez, on était très friands de la chose dans les universités d'époque, les questions disputées. Qu'est-ce que c'était, les questions disputées? Eh bien, le maître mettait, exposait devant les étudiants une question disputée. C'est-à-dire une question qui fait problème. Une question qui présente un mystère. Et on va essayer de sonder cela. Parmi les questions disputées, par exemple, il y avait des questions disputées sur la Trinité, le rapport entre la nature divine et les trois personnes divines. Bon, alors il y avait des questions disputées là-dessus, parce que le danger avec la Trinité, c'est d'aboutir, si l'on comprend mal ce qu'est la Trinité, à un trithéisme, c'est-à-dire non plus au Dieu unique, mais à trois dieux, ou bien alors, au contraire, de considérer que les personnes ne sont pas réellement des personnes, ne sont pas vraiment distinctes, et ce sont simplement des modes de parler de Dieu. On peut parler de Dieu comme le Père, on peut parler de Dieu comme le Fils, on peut parler comme le Saint-Esprit, mais au fond, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont pas trois personnes distinctes, mais au fond, simplement des modes de représentation du Dieu unique. Alors, on a une question discutée. Mais il y a une question discutée dont je vous parlerai la semaine prochaine. C'est la question discutée sur le savoir du Christ. C'est une question discutée qui est très intéressante et qui est en même temps très difficile. C'est une question très difficile. Pourquoi se pose cette question? C'est parce que, d'une part, Jésus-Christ se présente comme étant Dieu. Avant qu'Abraham fût « je suis », dit-il, et en même temps, sur certains points, il déclare son ignorance. Par exemple, quant à savoir du jour et de l'heure, eh bien, je ne sais pas, dit-il, le Père seul le sait. Alors, je pose une question discutée suivante. Quel est ce savoir du Christ? Est-ce que le Christ a un savoir comme celui de Dieu, ou est-ce que le Christ ignorait certaines choses précisément à cause de son humanité? Alors, vous voyez, c'est toute une question qui se pose, à savoir la personne du Christ, les deux natures du Christ, est-ce que Jésus-Christ vraiment ne savait pas le jour et l'heure, ou est-ce qu'il savait le jour et l'heure? Et alors comment est-ce qu'on peut affirmer ces deux choses apparemment contradictoires, à savoir que Christ savait et que Christ ignorait? Enfin, c'est une question discutée. Or, là aussi c'est curieux, cette question sur le savoir du Christ vient d'être traduite en français. Je vous ai dit que le Brevidotion a été traduit en 1967, mais quand il s'agit de cette question disputée sur le savoir du Christ, elle a été publiée, si je me souviens bien, qu'en 1985, mais enfin je vous préciserai la semaine prochaine, parce que je risque de me tromper, mais il me semble ça. Et vous verrez, nous parlerons de la dernière œuvre du Christ et les trois choses dont je parle. Aujourd'hui, je parle du Brevidotion. Et mercredi prochain, je vous parlerai à la fois de trois points de Bonaventure, de trois œuvres de Bonaventure, à savoir le petit traité, la question disputée sur le savoir de Christ, et puis une œuvre capitale, son itinéraire de l'esprit vertu. Son itinéraire de l'esprit vertu. Et enfin, je vous dirai quelques mots, parce que la première traduction française de cette œuvre n'a paru qu'en 90, c'est-à-dire il y a 2 ans, c'est justement ces sermons qu'il a donc donnés peu avant, l'année avant sa mort, en 1273, sur les 6 jours de la création, ou plutôt sur la semaine de création. Bon, alors, je voudrais faire 2 remarques avant de parler du Brevidotion. Première remarque, pour juger de, des rapports, si on veut dire, entre Bonaventure et Calvin. Là, j'avoue que j'ai été très surpris, et à certains égards, désagréablement surpris. Il y a mention du nom de saint Anselme et citation de saint Anselme, elles sont très rares dans l'institution de Calvin. Il y a de très longues citations et des mentions nombreuses du nom de saint Bernard dans l'institution de Calvin. Et puis, à première vue, je me figurais qu'il y avait des citations de Bonaventure dans l'institution de Calvin. Et en effet, si vous vous référez à la table des auteurs dans, à la fin de l'institution chrétienne, vous verrez mentionné, je n'ai pas compté, mais peut-être 30 fois, mettons, le nom de saint Bonaventure. Je me suis dit, ben, ça, c'est formidable. Puis alors, comme il faut toujours faire, il faut vérifier. Et j'ai vérifié. Et je me suis aperçu que mon ami, mort longtemps déjà, Michel Réveillon, qui avait fait des recherches sur les citations des pères et des docteurs du Moyen-Âge dans l'institution chrétienne de Calvin, a mentionné le nom de Bonaventure, alors que Calvin ne cite absolument pas Bonaventure. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vérifié, j'ai pris toutes les citations une par une, et puis j'ai regardé. Et au fond, non, Calvin ne cite jamais le nom, ni une ligne de Bonaventure. Et quand Réveillon a mis dans son glossaire le nom de Bonaventure, c'est simplement parce que il semble qu'entre ce que Calvin dit des sorboniques, des sophistes, des théologiens scolastiques, etc., bon, et bien chaque fois que Calvin fait allusion à ça, Réveillon, très courageusement, et parce qu'il était un homme très savant, après, il s'est dit, bon, mais il faut quand même voir un petit peu quels sont les textes scolastiques, sorboniques, qui se rapportent à ce que dit Calvin. Et alors, il mentionne, par exemple, Thomas d'Aquin, il mentionne Bonaventure, mais en fait, c'est simplement un rapport qu'établit Réveillon entre telle affirmation de Calvin sur les scolastiques disent que, et puis la recherche qu'a fait Réveillon pour voir où est-ce que les scolastiques ont pu dire quelque chose d'approchant à ce que Calvin leur prête. Vous voyez un peu? Donc, je ne suis même pas sûr que Calvin ait vraiment lu Bonaventure. Je crois plutôt que, alors que Calvin a lu Saint-Bernard, alors que Calvin a lu, en tout cas, les cours des Rousseau-Beau de Saint-Anselme, bien, je ne suis pas sûr du tout que Calvin ait vraiment lu Bonaventure. Comme il était d'une très grande culture, c'est possible, c'est possible. En tout cas, il y a une chose dont probablement, je dis probablement, Calvin a fait usage, c'est peut-être de certains textes sur les sentences de Pierre Lombard, mais surtout sur le commentaire des sentences de Bonaventure.
Mais c'est tout.
Donc, c'est dommage, mais Calvin ne cite pas le nom, en tout cas, je n'ai vu nulle part dans l'institution, le nom de Bonaventure, et non seulement il ne cite pas le nom de Bonaventure, mais je dirais qu'il ne cite aucune phrase de Bonaventure. Alors qu'il cite, je me le répète, d'ailleurs je vous l'ai dit la semaine dernière, il cite abondamment Saint-Bernard. Il y a des pages entières de l'institution qui sont copiées de Saint-Bernard, avec le nom de Saint-Bernard, comme le dit Saint-Bernard, et puis Calvin, il va de 10 lignes, de 20 lignes, de 3 lignes de Saint-Bernard. Alors voilà la chose que je voulais vous dire à propos de Calvin. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est sur le rapport entre Bonaventure et Thomas d'Aquin. Et ce que je vais vous dire là peut avoir une importance pour votre intelligence de l'histoire de la théologie. On dit, voilà les deux grands théologiens scolastiques, le dominicain, Thomas d'Aquin, le franciscain, Bonaventure, deux contemporains, qui se sont connus, et je le répète, qui se sont estimés, mais qui, sur des points capitaux, était en opposition. Et pour moi, le point capital de l'opposition entre les deux, c'est que en augustinien, et aussi en disciple de saint Anselme, parce que ça, il faut dire Bonaventure est un homme qui a été nourri, d'abord bien sûr par la Bible, il semble qu'il connaissait la Bible par cœur. Il connaissait la Bible par cœur. Il y a quand même des gens comme ça, assez extraordinaires, qui connaissent pratiquement la Bible par cœur. Il y a un théologien réformé américain qui connaît la Bible par cœur, au point que quand un de ses amis lui dit « Où est-ce qu'on trouve dans la Bible telle chose ?» il peut répondre « Qu'est-ce que ça ?»« Oh, mais c'est au livre de Théronome. » Moi, je suis dans l'admiration devant un tel savoir. Mais il paraît, il semble, que Bonaventure avait une connaissance par cœur de la Sainte Bible. Il se mouvait dans l'écriture comme un poisson dans l'eau. Il pouvait passer d'un texte à un autre. Il avait l'écriture présente à son esprit. Mais, en même temps, c'est un homme qui a beaucoup lu Saint-Augustin. Et beaucoup lu Saint-Anselme. Et à la fin du Brevi Notium, dont je vais vous parler, je vous annonce que vous en parlez, ça n'arrive pas, il cite des pages entières de Saint-Anselme. Alors, l'opposition entre Thomas d'Aquin et Bonaventure, c'est que Thomas d'Aquin est un pré-moderne. Les thomistes n'aiment pas beaucoup qu'on leur dise ça. Est-ce pas vrai, vous leur dites? Jacques Maritain, qui a été avec Gilson et avec le père Certillange, un des grands thomistes du XXe siècle, Jacques Maritain avait écrit un livre qui s'appelle « Anti-moderne ». Et il se présentait comme un théologien anti-moderne. Or, cet homme, Jacques Maritain, qui se disait thomiste et anti-moderne, au fond ne s'est peut-être même pas bien rendu compte que Thomas d'Aquin est un précurseur au contraire des modernes. Pourquoi? Parce que pour Thomas d'Aquin, il y a deux domaines. Un domaine qui est celui de la nature, et que la raison humaine peut explorer. Et puis il y a un autre domaine, qui est le domaine de la surnature, et qui est le domaine de la foi. Voilà. Et alors, au fond, le domaine de la raison est comme le rez-de-chaussée par lequel il faut passer pour accéder au premier étage. Il faut passer par la raison et la compréhension de la nature pour entrer dans le domaine de la surnature. Et en philosophie, Thomas d'Aquin est un rationaliste. Parce que le domaine du rez-de-chaussée, c'est le domaine de la philosophie. Et le domaine du premier étage, c'est le domaine de la théologie. Voilà. Alors, c'est très grave, ça. Parce qu'au fond, petit à petit, sous l'impulsion des affirmations de Thomas d'Aquin, il va y avoir dans l'Église le développement d'un certain rationalisme. Et c'est pour ça que c'est très juste d'affirmer que Thomas d'Aquin est le précurseur de l'ère moderne rationaliste. Le précurseur. Tandis que Bonaventure, lui, fidèle, à mon sens, à la Bible d'abord, mais aussi à l'augustinisme, est un homme qui ne croit pas et se refuse de croire, sur la base des affirmations bibliques, à l'autonomie de la raison humaine. Pour Thomas d'Aquin, et c'est ce en quoi Thomas d'Aquin est un moderne, pour Thomas d'Aquin, la raison est autonome. La raison est autonome. C'est-à-dire qu'elle agit souverainement dans son domaine. Et dans son domaine, elle est indépendante de la parole de Dieu, elle est indépendante de la théologie. Tandis que pour Bonaventure, c'est pas possible. Parce que Bonaventure croit que la corruption du péché a atteint aussi l'intelligence humaine, et il pense que c'est le Christ seul qui peut remettre d'aplomb l'intelligence humaine, la raison humaine, et au fond, la raison ne peut pas être autonome, la raison doit dépendre dans sa démarche, dans ses recherches, de l'autorité de la parole de Dieu. Et elle doit se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Vous voyez la différence entre le prémoderne qui est Thomas d'Aquin et l'augustinien, j'allais dire le biblien, qui est Bonaventure. Pour Bonaventure, il n'y a pas de raison indépendante, autonome. La foi exige que nous soumettions notre raison à l'autorité souveraine de Dieu et de sa parole, à l'autorité souveraine du Christ. C'est d'ailleurs ce que demande saint Paul, qui nous invite à replacer tout, y compris bien sûr notre raison, sous l'autorité du Christ. Et saint Paul a là-dessus des affirmations extrêmement nettes. Il faut que nous amenions toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. S'il faut amener la raison captive à la pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, c'est dire que la raison, l'intelligence humaine ont besoin d'être ramenées à l'autorité du Christ, autorité contre laquelle, depuis Adam, l'homme s'est élevé. Bon, alors je m'arrive à mon préfigure. Alors vous voyez, on a publié aux éditions franciscaines 7 petits volumes du Prédilogium, c'est-à-dire du bref discours, on peut dire que le Prédilogium est une somme en condensé, en résumé. Alors là, je vous ai mis là les volumes, il y a un prologue et 7 parties. Et les 7 parties sont des parties agencées logiquement, si je puis dire. On commence par la Trinité divine, on commence donc par Dieu, ensuite on parle du monde créé, ensuite de la corruption due au péché, ensuite de l'incarnation du Verbe. Alors là, nous avons là le plan classique que les réformés aiment souligner, création, chute, rédemption. Hein. Création, chute, rédemption. Alors Dieu, création, chute, rédemption. Ensuite, faisant partie au fond de la rédemption aussi, la grâce du Saint-Esprit, les remèdes sacramentels, et puis enfin une dernière partie, sur la partie eschatologique, sur le statut du jugement dernier. Alors, c'est très court, parce qu'il y a 7 petits volumes. Bon, Dieu, c'est déjà pas mal. Et pas du tout, parce que si on regarde l'un de ces volumes, on s'aperçoit de quoi? D'abord, c'est que pour chaque volume, il y a une introduction. Alors là, j'aimerais vous dire que le père franciscain qui a préparé le travail, c'est un tiers du volume, déjà, c'est l'introduction. J'aimerais vous dire que c'est très intéressant, parce que c'est très bien fait. L'introduction est éclairante, elle est bien. Mais ensuite, vous avez sur la page de gauche le texte latin, et sur la page de droite le texte français. Bon, donc, il faut diviser ça en deux. C'est-à-dire que voilà un volume qui finalement se réduit à ça. Et tout ça, c'est l'introduction et le fait qu'il faut diviser en deux le reste, puisqu'il y a le texte latin et le français. Donc, si vous voulez, comme valeur, c'est ça. Alors, ajoutez 7 fois ça, et bien, si vous ajoutez 7 fois ça, ça va vous présenter à peu près un livre comme ça. Alors, on comprend pourquoi il appelle ça le Brevilocchio. En effet, c'est un résumé d'une petite somme. Une petite somme, une sève, une somme portative. La somme de Thomas d'Aquin, c'est un fond. La somme de Thomas d'Aquin, ça représenterait en volume, sans la traduction française, en volume ordinaire, quelque chose d'immense, une vraie bibliothèque. Je dirais un peu comme la dogmatique de Barthes. C'est toujours même que l'institution chrétienne de Calvin. La somme théologique de Thomas d'Aquin, c'est considérable. Et là, nous avons donc une petite somme. Et c'est un condensé qui était sans doute remis aux étudiants lorsqu'ils suivaient les cours de Bonaventure. Hein, ils avaient là un résumé. Et un résumé sur les points essentiels de la doctrine chrétienne. Hein, la Trinité, ensuite création, chute, rédemption, Et c'est très intéressant de lire ce livre. Alors, je n'ai pas le temps de vous lire tout ça, mais je voudrais quand même vous lire quelques petits passages pour vous montrer ce que dit Thomas. Par exemple, dans le prologue au sujet de l'écriture, il dit « Rien donc dans l'écriture ne doit être condamné comme inutile, rien n'est à rejeter comme faux, rien n'est à répudier comme impie par le fait que l'Esprit Saint, son moteur infiniment parfait, n'a pu rien dire de faux, rien de superflu, rien d'inférieur. C'est pourquoi le ciel et la terre passeront, mais les paroles de l'Esprit Saint ne passeront pas qu'elles ne soient accomplies, car avant que le ciel et la terre ne passent, pas un iota, pas un accent ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé, le Sauveur en était loin. Celui donc qui délira ce conseil d'écriture et l'enseignement inscriptum sera tenu pour loin dans le royaume des cieux, et celui qui l'exécutera et l'enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que en tête de son traité, de son ouvrage, parole de Paul que cite Bonaventure, c'est la fameuse parole qui est l'introduction donc à toute la théologie de Bonaventure. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom, qu'il vous accorde selon les richesses de sa gloire la puissance d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour, il vous sera alors possible de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, et ainsi vous serez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà, c'est ça. Ouais. Aux étudiants de théologie, la première chose que disait, que répétait, que citait Bonaventure, c'était ce passage de l'apôtre Paul. Et alors, dans le plan concernant l'écriture, ils montrent quelle est la largeur de l'écriture, quelle est la longueur de l'écriture. Alors la largeur, c'est que l'écriture parle de tout, largeur du monde. La longueur, c'est qu'elle commence avec la création du monde et qu'elle ne s'achève avec l'établissement final du royaume de Dieu. La hauteur, elle montre au fond jusqu'où monte l'écriture et veut nous élever avec elle l'écriture, et puis la profondeur, parce qu'on n'a jamais fini de sonder l'écriture. Alors, il partait de là. C'est la première chose qu'il disait à l'étudiant, et on peut dire que tout le prologue est un commentaire de cette parole de Saint. Alors, ensuite, vous avez le passage sur la Trinité, et ce passage est intéressant parce que dans son discours, il montre en bon augustinien comment s'exerce la volonté de Dieu. Je vous lis sur un passage. La volonté de Dieu est droite, de sorte qu'elle ne peut dévier en aucune manière. Elle est efficace, au point que rien ne peut l'entraver. Elle est une, de telle sorte cependant qu'elle puisse être signifiée de multiples façons. La volonté divine, qui est volonté de bon plaisir, est signifiée par la volonté de l'un de ces cinq signes différents qui sont l'ordre, l'interdiction, le conseil, l'accomplissement et la permission. Tout ce qui arrive dans l'univers est disposé par la volonté de bon plaisir selon ces cinq signes, car la volonté de Dieu est cause première et souveraine de toutes les formes et mouvements. Rien n'arrive visiblement et sensiblement dans cette vaste et immense république de la création qui ne soit ou ordonné ou permis depuis la cour intérieure et invisible et intelligible de l'Empereur suprême selon l'ineffable justice des récompenses et des peines, des grâces et des rétributions. Et parce que cette volonté est appelée providence, tout ce qui arrive dans l'univers est fait et réglé par la divine providence qui est par-dessus tout irrépréhensible parce qu'elle n'ordonne, ne défend ou ne conseille rien que de juste, ne fait rien que de bon et ne permet rien d'injuste. Alors voilà, je pourrais, j'ai noté, vous voyez, j'ai mis des petits crochets à chacun des volumes, parce que il y a des choses admirables dans Bonaventure. passage donc, du le monde créature de Dieu. Alors il commence en disant, après nous être fait quelque idée de la Trinité de Dieu, il nous faut parler du monde comme créature de Dieu. La totalité de la machine du monde a été produite dans l'être, dans le temps et dans rien, par un unique premier principe seul et souverain, dont la puissance vient qu'incommensurable à disposer toute chose dans un certain poids et nombre et mesure. Il faut entendre dans leur sens général ces affirmations touchant la production des choses. En disant dans le temps, on exclut l'erreur de ceux qui professent l'éternité du monde. En disant de rien, on exclut l'erreur de ceux qui professent l'éternité de la matière. En disant par un unique principe, on exclut l'erreur des manichéens qui proposent la dualité des principes. En disant seul et souverain, on exclut l'erreur de ceux qui professent que Dieu a produit les créatures inférieures par le ministère des anges. Alors vous voyez, c'est très dense, je veux dire c'est très dense, mais je crois que vous auriez tout intérêt à vous procurer le brevi d'octobre de Saint-Valentin. Évidemment, c'est un texte qui date, qui date. Et à première vue, quand on aborde, d'ailleurs, c'est un peu